Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Astrid.
Bonjour.
Comment vas-tu aujourd'hui ?
Écoute, impeccable, un petit test PCR matinal et puis voilà, on est parti quoi.
Ok, et ben écoute, t'es en plein dans la thématique en plus en ce moment. Écoute, je suis vraiment hyper heureux de te recevoir aujourd'hui et vraiment je remercie Raisy qui nous a mis en relation parce que j'avais vraiment hâte de faire cette interview à la fois parce que je suis
Je suis très impressionné par la carrière que tu as, non pas forcément dans le sport, on va peut-être pas parler beaucoup de sport aujourd'hui, mais de ce que tu fais, tout ce que tu fais à côté, de ta carrière de, on va dire plus ou moins, en tout cas de qui a commencé en tant qu'ingénieur dans l'aéronautique et dans ton engagement dans la CAN, du fait que tu as écrit un livre pour enfants, enfin bref, plein de sujets qui me passionnent. Mais avant d'aborder tout ça, comme je te le disais, la tradition sur le podcast, c'est de commencer un petit peu par l'enfance, et je crois que tu as un souvenir sympa sur lequel tu as même retrouvé la date. Et du coup, quel est ton premier souvenir de sport?
Oui, effectivement, j'ai recherché la date parce que bah, ça date justement. Mon premier souvenir de sport, en fait, c'est assez rigolo. C'est bon, devant la télé, évidemment, et c'est en 91, au moment où Guy Forget donne la victoire à l'équipe de France de Coupe Davis. Je crois que ça se passe en France, ça se passe à Lyon, il est contre Pete Sampras. Et pourquoi en fait ça m'a marqué? Ça m'a marqué parce que bon, il y a l'explosion de joie, il y a ensuite la danse sur le cours central de Saga Africa avec Yannick Noah, avec Henri Lecomte. Mais surtout, c'est un moment qu'on partage en famille. À ce moment-là, il y a mon père, ma mère, moi, mon frère dans le salon. Et c'était assez rare qu'on regarde du sport ensemble. Et pour le coup, à ce moment-là, il y a vraiment une explosion de joie au moment où Guy Forget met la balle de match. Et il y a une sorte de communion où on est tous les quatre sincèrement heureux, alors que il n'y a pas forcément une tradition de regarder du sport ensemble dans la famille. Et je trouvais que c'était intéressant de voir que, pris par surprise, parce que il y avait la Coupe Davis à la télé, on s'était pris au jeu, on s'était mis à regarder tous ensemble. Et puis il y avait ce moment de communion, et ça me fait dire que le sport est hyper fédérateur quelque part, et que bah oui, c'est aussi pour ça que c'est important tous les quatre ans d'avoir les Jeux Olympiques, et c'est aussi pour ça que c'est important, ouais, que cet été, malgré la situation sanitaire, les Jeux de Tokyo puissent avoir lieu, parce que je pense que ça va quand même donner un peu de bonheur, ça va donner des émotions qui sont positives, et dans la période, on en a tous besoin.
Ouais, c'est clair. Et puis même si ce sera des jeux particuliers qui n'auront jamais d'équivalent dans le passé, je pense que même les spectateurs, les téléspectateurs qui pourront y assister pourront partager quand même ces moments de joie, de victoire et un peu de fraternité qui peut y avoir. Mais c'est marrant que tu parles du tennis, parce que je trouve que c'est justement un des rares sports qui rassemble autant, tu vois. Moi, mon père me parle de la victoire de Yannick Noah aussi, effectivement les victoires de Coupe Davis qui étaient des grands moments. Je trouve que tous les sports le tennis, je trouve en particulier, a ce côté un peu famille où peut-être tu te poses, tu l'allumes en fond de la télé, puis tu fais des trucs, et puis chacun passe, vient, et puis dès que ça se rapproche de la balle de match, tout le monde se rassemble autour, tu vois, pendant un petit moment. C'est assez beau, je trouve. Vrai.
C'est assez beau, c'est assez hypnotique. Par contre, très clairement, tous les bacheliers détestent la programmation de Roland Garros, qui est juste au moment des révisions du bac. Je suis sûr que pour le bien de tous, ouais, je pense que ce serait pas mal de le laisser en septembre-octobre. Moi, je me souviens, mais de me dire, allez, plus qu'un jeu. Allez, bon, allez, je regarde la fin du set. Et bon, et finalement, la révision du bac, elle devient de plus en plus compliquée. Parce que c'est vrai, tu te prends au jeu, et puis un match de tennis, ça, c'est quand même des renversements de situation qui sont assez intéressants. Ça me fait penser un peu à nos matchs par équipe en escrime. Tu peux avoir vraiment un retournement dans le match, tu peux voir des joueurs qui passent par toutes les émotions, et c'est ça qu'on a envie de voir. On a envie de comprendre la psychologie du joueur, et le tennis, parce que c'est un temps qui est relativement long, permet aux joueurs finalement d'avoir le temps de gamberger suffisamment pour que le match puisse s'inverser et que différents grains de sable puissent se mettre dans les rouages. Donc je trouve que c'est un sport qui est très psychologique, et du coup à regarder, c'est aussi très intéressant.
Ouais. Puis il y a beaucoup de points de commun, je trouve, avec l'escrime, non, quand même, tu vois, on est sur un duel, c'est très psychologique, il y a à la fois de l'individuel mais aussi en équipe. Il y a souvent des ambiances très survoltées. Toi, tu vois des points communs, tu vois, plus que ça, ou même des choses qui peuvent t'inspirer, ou des passerelles entre les deux sports.
Celle que je viens de te donner, oui, évidemment. Après, moi, je trouve qu'il y a une grosse différence, c'est la distance. Moi, je suis très près de mon adversaire, alors qu'avec le tennis, il y a quand même le filet et puis le terrain, les deux lignes de fond de court qui sont assez éloignées. Ce qui fait que la focale qu'on va utiliser dans notre vision périphérique est totalement différente. Moi, je suis totalement focalisée sur la cuirasse de mon adversaire avec un champ de vision relativement restreint, même si je l'élargis au maximum. Mais typiquement, l'arbitre, je le vois pas, les spectateurs, je les vois pas. Alors qu'à Roland-Garros, un spectateur qui se lève en haut du central, limite, l'arbitre dit hop, les joueurs sont prêts, arrêtez de bouger, quoi. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Par contre, ce qui est vrai, le côté duel, le côté prendre le pouvoir quelque part, l'ascendant sur son adversaire, ça, ça existe vraiment. La capacité à pouvoir revenir très très vite dans un match, parce que sinon bah le set il peut filer. Alors nous ça va encore plus vite en escrime, hein, parce que nous c'est 15 touches. Un match c'est parfois ça peut se terminer en 5 minutes, hein. Alors quand c'est plus long c'est une demi-heure, avec les arrêts de jeu, avec les décisions d'arbitrage, mais nous on doit vraiment être en capacité de gérer nos émotions beaucoup plus rapidement qu'un joueur de tennis où lui il va avoir 3-7 gagnants et parfois il peut se permettre de se dire bon bah ce set là je le laisse tomber, alors que nous c'est des points qui se cumulent et tu peux pas laisser tomber un point parce que tu vas le garder pendant toute la durée du match, le point que t'auras pris, parce que t'auras fait baisser ta concentration, quoi. Donc donc voilà, après tu vois finalement je te trouve plus de différences que de points communs, et notamment je trouve parce que moi pour le coup j'ai fait du tennis, tennis et j'ai fini par choisir l'escrime, et principalement parce qu'à l'escrime en fait oui on est un sport individuel et oui il y a des compétitions par équipe, mais on s'entraîne comme un sport collectif. Il y a vraiment besoin d'avoir un collectif d'entraînement, que ce soit en club ou en structure nationale comme à l'INSEP aujourd'hui, où il faut que tu aies des partenaires d'entraînement, des adversaires. Et ces adversaires-là qui vont te faire progresser. Donc, on vit en groupe toute l'année, que ce soit en club ou en structure nationale. Là où le tennis, c'est un sport plus solitaire, quelque part, où tu peux te permettre d'être avec ton entraîneur, ton coach, et où l'entraînement se fait sur le circuit international avec d'autres joueurs, que ce soit en compétition ou lorsque tu tapes la balle avant les compètes, mais tu t'entraînes quasiment sur le circuit international, ce qui n'est pas le cas en escrime où tu as vraiment le groupe France qui s'entraîne ensemble avant de partir en compète.
Ouais, c'est vrai. Mais après, chez les jeunes, pour avoir fait du coup quand même sport études tennis, tu vois, le groupe d'entraînement, c'est aussi quelque chose que tu retrouves, parce que c'est tes partenaires qui vont te suivre toute l'année. Et t'as même les compétitions par équipe, départementales, régionales, nationales, qui sont assez importantes. Et ouais, c'est vrai que je retrouve bien ça, et c'est hyper important. Tu vois à quel point. Enfin, je trouve les athlètes qui ont vécu ça comprennent aussi parfois les choix des entraîneurs, tu vois, d'écarter certains éléments ou d'en choisir d'autres justement pour le côté moteur ou frein qu'ils peuvent avoir au sein d'un groupe, parce que c'est hyper important en fait d'avoir un groupe qui est équilibré, qui vit bien ensemble et qui est performant collectivement, quoi. Donc ça me fait penser à tout ça. Et toi tu te souviens pourquoi est-ce que tu as choisi plutôt l'escrime plutôt que le tennis? Alors il faut mentionner quand même que l'escrime c'est un sport de famille quand même chez toi, mais tu sais pourquoi tu as fait ton choix?
Oui, et ça je sais pourquoi j'ai fait de l'escrime, parce qu'effectivement Brice, mon grand frère, en faisait déjà, et donc pour ma maman c'était quand même vachement plus simple de mettre les deux enfants au même sport. Sauf que derrière j'ai rajouté le tennis, et donc j'avais deux sports au départ, et le choix il s'est vraiment fait sur l'humain. Très clairement, j'avais toutes mes copines à l'escrime, et je retrouvais à l'escrime ce que je n'avais pas dans le tennis, c'est-à-dire le côté familial d'un club qui vit cette richesse du collectif d'entraînement, partir en compète tous ensemble, alors que je partais en compète au tennis seul, avec des adversaires que je connaissais pas. Je me souviens, les adversaires que je pouvais rencontrer disaient à peine bonjour. La seule chose qui les intéressait, c'était mon classement, pour savoir combien de points elles pouvaient se mettre dans la besace si jamais elles me battaient. Alors qu'à l'escrime, t'arrives en compète, il y a 100 personnes de ton âge, tout le monde se connaît, tu pars en déplacement ensemble. Il y avait ce côté familial, et surtout, j'y avais toutes mes copines, et quelque part, le sport c'est aussi fait pour grandir, au-delà de ramener la coupe à la maison à la fin du week-end. Le but c'est de se marrer, le but c'est de s'épanouir, et quand on est une jeune adolescente, l'humain prime quelque part, et aujourd'hui ces amis dont je te parle, c'est toujours mes meilleurs amis, et aujourd'hui j'ai 38 ans, donc tu vois, 30 ans après, c'est des personnes qui sont toujours à mes côtés. Ça montre que le sport permet vraiment des belles rencontres, et je trouve que quelque part c'est ça qui reste, c'est la personne qu'on est devenue, c'est la façon dont on a grandi, c'est le chemin qu'on a parcouru, c'est ça la richesse du sport.
Ouais, c'est vrai. En plus, enfin, c'est quelque chose qui revient toujours, quoi, les amitiés, les rencontres, Et je trouve que le sport, c'est vraiment un accélérateur de tous ces événements humains que tu peux vivre, parce que le sport tout seul, ça a finalement très peu de valeur, quoi. Ça reste aussi la route parcourue, tu vois. C'est aussi des fois s'entraîner tout seul, c'est dans son coin, mais ça se partage.
Bah, le sport a une... ouais, alors déjà, bien sûr, quand ça se partage, c'est plus fort, en fait. C'est surtout ça. C'est pour ça que les victoires par équipe, elles sont encore plus belles. C'est que, bah, c'est pas si elles sont plus belles, mais elles sont plus fortes à vivre. Parce qu'effectivement, bah, quand l'émotion est partagée, elle se décuple, quoi, tout simplement. Et après, le sport pour le sport, ça reste important. Pourquoi? Parce que c'est un divertissement. Comme je le disais tout à l'heure avec la Coupe Davis, pour moi, ça reste un moment que j'ai partagé en famille. Et puis, ça nous oblige, dans cette quête de performance, à aller donner le meilleur de nous-mêmes. Donc finalement, on est des mini-chercheurs, quoi. On est des chercheurs de nous-mêmes. On se projette dans un projet de performance. Mais ça reste assez égoïste, quelque part. Parce qu'on est sur notre palmarès individuel, on est sur des quêtes personnelles. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des rencontres sur le chemin qui permettent de partager, quoi.
Ok, ça me fait faire une petite passerelle avec un sujet que je voulais aborder avec toi. C'était effectivement le fait que tu aies écrit des BD pour enfants. Et tu parles beaucoup de, quand on t'interroge sur le sujet, de transmission de valeurs, de partage. C'est ce côté justement humain, et c'est ce côté autour du partage que tu as voulu vraiment retransmettre dans ces livres. Moi, je serais curieux d'avoir un petit peu la genèse et de savoir, ok, pourquoi, quand on est un sportif de haut niveau, comment est-ce qu'on peut se dire, allez, je vais écrire des sur le sport. D'ailleurs, c'est des BD sur le sport. Je recommande aux éditeurs. J'ai promis d'aller faire mon petit achat après cette interview, mais tous les auditeurs qui ont des enfants, d'aller le faire aussi. Qu'est-ce que tu as voulu transmettre, et quelle est la genèse un petit peu de ce projet-là?
Ouais, alors effectivement, j'écris effectivement une collection d'albums jeunesse. Alors, c'est pas des BD, c'est des albums, donc c'est moitié écriture, moitié illustration, qui s'appelle Les Incroyables Rencontres de Joe. Joe pour l'acronyme Jeux Olympiques, mais c'est aussi un prénom. Donc, c'est un petit garçon de 10 ans, en fait, qui va faire la rencontre d'un autre enfant de son âge qui deviendra 20 ans plus tard un grand champion ou une grande championne française. Voilà, et au travers de ces rencontres, en fait, il va toucher du doigt les valeurs du sport. Et bien sûr, il va se découvrir des ressources qu'il ne pensait pas avoir au début du livre pour surmonter la difficulté de départ. Qu'est-ce qui m'a donné envie de d'écrire ? Il y a deux choses, en fait. La première, une petite nièce que j'aime de tout mon cœur, très vite je me suis dit, tiens, je lui offrirais bien un livre pour pouvoir lui lire les histoires avant de s'endormir. Et je me suis dit, bon, bah, quitte à lui offrir un livre, autant lui offrir un livre sur le sport, puisque son papa est champion, sa maman est championne aussi de sabre, tata est championne. Bon, allez, on va lui parler de sport, finalement. Et donc, je suis allée en librairie, dans des grandes librairies, voir un peu ce qui se faisait, et j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé des choses sur le foot. Ou alors, j'ai trouvé des documentaires, en fait, des livres qui t'expliquent les règles du sport, mais j'ai pas trouvé d'histoire de sport qui éveille l'imaginaire, qui te plonge dans un imaginaire, ouais. Et donc, je me suis dit, bon, bah, qu'à cela ne tienne, je vais donc lui écrire moi-même une histoire de sport. Et donc, j'ai commencé à écrire avec un papier et un crayon. Et puis, en fait, en faisant lire l'histoire, on m'a dit, bah, c'est pas mal, en fait. Potentiellement, en fait, ça pourrait devenir quelque chose. Et donc là, toute timide, j'ai donc donné mes manuscrits au Cherche Midi, qui a tout de suite adhéré, en fait, au projet. Et ça, c'est assez génial, hein. L'édition, c'est finalement aussi des rencontres, hein. C'est un coup de cœur de la part d'une maison d'édition qui fait le pari de se dire, bah, ça, je me reconnais dans ce projet, je me reconnais dans les valeurs qui sont transmises, alors que le Cherche Midi n'est pas du tout spécialisé dans la littérature jeunesse. Si vous connaissez cette maison d'édition, c'est pas du tout son créneau. Mais pour le coup, voilà, ils ont fait le pari et ils m'accompagnent depuis, puisqu'on est, sur cinq épisodes qui sont sortis, bientôt un sixième qui est en cours d'écriture. Voilà, donc ça, c'est la genèse. Et après, il y a un autre élément concordant qui a renforcé cette envie d'écrire sur les valeurs du sport. C'est que l'idée me vient en 2015, au moment où commence la qualification olympique pour les Jeux de Rio. Et il se trouve que c'est une qualification olympique qui était purement individuelle, puisque le CIO avait eu la très mauvaise idée d'enlever le fleuret d'âme de l'épreuve par équipe. Enfin, c'est-à-dire que le fleuret d'âme n'était pas programmé par équipe aux Jeux de Rio en 2016, donc j'avais que la compète indiv. Mais du coup, double peine, si tu n'as que la compétition individuelle, la qualification est aussi plus compliquée, donc elle se fait au ranking mondial, et entre françaises, tu es adversaire. Donc là où je t'expliquais tout à l'heure que quelque part le groupe France s'entraîne dans un esprit de sport collectif, là d'un coup c'était devenu beaucoup plus complexe parce qu'on n'avait plus d'épreuves par équipe et en plus au quotidien finalement on était adversaire et qu'adversaire, on n'était plus coéquipière le lendemain. Donc ça a donné une ambiance assez compliquée, c'était une situation qui était complexe à vivre humainement et à un moment donné j'ai perdu le fil, je me suis dit mais pourquoi je fais ça en fait ? Parce que c'était lourd, c'était pénible à vivre, et j'avais besoin de me reconnecter au pourquoi. J'avais besoin de me reconnecter à mais au fait quand à 5 ans quand tu voulais aller au club d'escrime c'était pourquoi ? Et donc très vite je suis arrivée sur les valeurs de mon sport. Qu'est-ce qui animait la petite fille de 5 ans, la jeune adolescente, quand elle mettait sa tenue d'escrime et qu'elle partait en compétition. Et quelque part, écrire sur les valeurs du sport au travers de cette collection, au travers du petit Joe, à qui je fais faire plein de misère, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien, ça me reconnectait à mon sport, ça me reconnectait au pourquoi est-ce que je faisais tous ces efforts. Quoi. Donc en fait, ça a été marrant parce que ça m'a accompagnée tout au long de cette qualification olympique. Et ça a été une récréation quasi positive, on va dire, puisque je me souviens très bien que j'ai écrit les premières histoires en même temps que je partais en compétition. Quoi.
Ok. Et ouais, du coup, il y avait un petit côté un peu presque... tu vois, moi, je crois beaucoup au carnet de bord où, tu vois, où tous les matins, j'écris un petit peu comment je me sens, ce que j'ai bien aimé la veille. Et ça me fait vraiment un bien fou. Est-ce que tu l'as intellectualisé un peu ou tu l'as conscientisé un peu sur cette quête de développement personnel que tu avais en écrivant ou ça te permettait un peu de passer des énergies aussi négatives ou même conscientiser des énergies positives?
Je sais pas si ça avait l'effet d'un carnet de bord. Ce qui est vrai, c'est que quand tu écris, tu mets forcément de toi. Ton héros, c'est un mixte entre un peu de toi, un peu de toutes les personnes qui t'entourent, un peu alors les ennemis aussi de ton personnage. Alors ça c'est génial, tu t'éclates, tu passes en revue tous les gens qui t'agacent sur le moment, puis tu mets un peu de leur personnalité dans ton ennemi, celui qui va faire des misères à ton héros. Donc en fait c'est ça qui permet de purger certainement. C'est que bien sûr que ce qui arrive à Joe, c'est pas autobiographique, pas du tout, mais il y a un peu de moi dedans. Et quelque part, oui, c'est ça qui permet ce petit côté introspectif et qui permet de coucher sur le papier peut-être des émotions, des difficultés que j'ai pu avoir et que j'ai su surmonter ou pas, ou que je suis toujours en train de chercher à surmonter parce que des difficultés, des challenges, on en a tout au long d'une vie et c'est tant mieux. Mais je pense que oui, on met forcément un peu de soi quand on est auteur dans ces personnages. C'est jamais totalement dans un personnage, c'est parfois un peu partout. Mais évidemment, on écrit sur ce qu'on connaît, on écrit sur des expériences qu'on a vécues. Et puis on voilà, donc oui, il doit y avoir un peu de ça quand même. Je suis d'accord avec toi.
Ouais, ok. Ouais. Côté carnet, puis j'imagine ça doit être difficile de te dire. Qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement d'écrire un livre, tu vois, parce que tu le fais pas pour forcément apprendre, enfin tu le fais un peu pour apprendre pour toi, mais tu cherches pas forcément à conscientiser le d'où tu pars et où est-ce que tu arrives et comment est-ce que tu as changé, donc c'est un exercice difficile. Ouais.
Non, t'écris parce que ça te fait plaisir de le faire. Tu écris une histoire qui te plaît. Ouais. Tu écris une histoire qui te manque. Je crois vraiment à ça. Moi, j'ai écrit mes premières histoires pour ma nièce parce que ces histoires me manquaient, je ne les trouvais pas. Et donc, je pense qu'on écrit d'abord pour ces raisons-là. Bien sûr, derrière, il faut qu'il y ait des lecteurs au rendez-vous et quand j'ai des retours de d'écoliers qui ont pu s'emparer des livres en classe ou de jeunes licenciés qui ont pu s'emparer des livres via leur club et que je les vois me faire des super retours, mais enfin, il n'y a pas plus beau cadeau, quoi. Ça vous réchauffe le cœur, quoi. Quand je vois ma nièce en train de lire le livre ou maintenant mon petit neveu en train de le faire, enfin. Voilà, c'est des moments roudoudou, quoi. C'est pour ça qu'on est auteur, c'est pour ça qu'on couche des mots sur le papier. Ce qui était génial, une fois, je m'étais mis dans les gradins Je me souviens, j'avais vu deux enfants en train de lire un de mes livres et ils ne savaient pas que j'étais là. D'ailleurs, je pense qu'ils ne savaient même pas qui était l'auteur. Donc, et en fait, je les ai vus réagir en live à certains mots du livre, à certaines illustrations où ils s'esclaffaient d'une situation que Joe était en train de vivre. Voilà, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on écrit. Mais d'abord, c'est aussi parce que ça nous fait plaisir. Enfin, moi, en tout cas, je le vis comme un hobby. Quand je me plonge dans Joe, je ne me dis pas « Ah mince, il faut que j'écrive mon petit Joe ». J'ai envie de le faire. Et toute personne qui viendrait me gêner à ce moment-là m'ennuie, quoi. C'est l'inverse.
Ouais. Bah, en tout cas, ça résonne beaucoup en moi ce que tu dis, parce que c'est un peu, j'ai un petit peu le même sentiment, tu vois, à travers le podcast, tu vois. Je l'ai fait, parce que je trouvais pas de podcast, justement, qui parlait de sport, qui interviewait des sportifs. Et je me suis jamais posé la question de ce que ça allait m'apporter à moi, mais vraiment de le faire pour effectivement créer quelque chose qui n'existait pas et qui n'était pas encore là et de pouvoir transmettre, tu vois, tout ce savoir, toutes ces inspirations qui existaient et dont on ne capturait rien, quoi. Et donc ça me parle beaucoup. Et effectivement, des fois quand j'entends aussi des fois des gens qui parlent de mon podcast, ça me fait un petit peu bizarre, mais je me posais aussi la question, alors peut-être que je sais pas si c'est arrivé, mais vu que tu l'as fait pour ta nièce et que tu dis qu'il y a des éléments de vrai, de aussi de l'imaginaire, c'était arrivé aussi qu'elle vienne te voir et qu'elle te dise au fait, tata, est-ce que ça s'est vraiment arrivé, ou qu'elle mélange un petit peu l'imaginaire de l'enfant et le réel?
Non, elle n'est pas encore arrivée dans ce niveau de lecture d'un livre avec l'abstraction que ça peut supposer quand tu écris une fiction. Non, et d'autant qu'en plus, bon, forcément, le livre qu'elle adore, c'est celui sur l'escrime qui s'appelle Le face-à-face de Joe, parce qu'il se trouve que le petit Joe va rencontrer un certain Brice qui deviendra 20 ans plus tard, Brice Guyard, voilà. Parce qu'effectivement, hein, j'ai pris mes proches en cobaye pour écrire le premier épisode. Et donc, pour le coup, celui-là, elle a très bien compris que Brice, c'était son papa. donc là, pour elle, c'est pas totalement de la fiction. Donc, c'est assez rigolo, mais c'est trop mignon parce qu'à la fin, à chaque fois, oui, parce qu'il y a la fiction dans les livres. Et puis, tu tournes la page, donc l'enfant découvre que le champion devient 20 ans plus tard le grand champion qu'on connaît avec le palmarès. Et puis, t'as toute une partie pédagogique, en fait, où on va sur les règles du sport, sur le champion qui, avec ses mots, explique ses sensations. Il y a des petites infographies rigolotes sur son palmarès. Donc, voilà. Donc, il y a toute une partie pédagogique après où, finalement, l'enfant découvre ce qui est devenu le champion et le palmarès qu'il a obtenu. Donc, voilà. Donc, au moment où elle tourne la page, à chaque fois, elle est très contente de voir Brice Guyard, qui est son papa.
Bah, j'imagine. Non, mais en plus, c'est un super... Enfin, pendant qu'on est sur le sujet, je trouve que c'est un super cadeau que tu fais à toute ta famille, en fait. Tu vois, alors certes, effectivement, il y a la partie fiction et tout, mais le fait d'avoir écrit un épisode et en tout cas un opus de cette série sur Brice, je trouve que, tu vois, pour vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, en fait, c'est des choses, ça se transmet pas, tu vois. Et moi, tu vois, j'ai eu un énorme regret quand j'ai perdu ma grand-mère qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, qui a vécu des choses extrêmement fortes. Et en fait, le jour où je l'ai perdue, en fait, je me suis dit, mais j'ai pas gravé, tu vois, ou j'ai pas écrit, j'ai pas enregistré, en fait, toutes ces histoires qu'elle me racontait pour ne pas oublier qui elle vient, qui elle est. Et c'est des messages, en fait, tellement forts, tu as rempli de valeur. Alors, j'imagine, tu vois, on partage tous ça, mais que j'aurais pu transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants, et transmettre, tu vois, ces histoires de vie. Je me suis toujours dit que ça serait une bonne idée de tu vois, de pouvoir capturer un peu des histoires de famille un peu pour les futures générations. Donc en tout cas, je trouve que c'est un très beau cadeau que tu fais à ta famille, peut-être sans t'en rendre compte, mais c'est quelque chose qui reste dans le temps, tu vois, et qui crée des souvenirs, quoi, qui crée des mémoires, et ça permet, je trouve ça très beau, quoi.
Et pour le coup, parce que ma première lectrice, c'est ma mère, c'est ma première correctrice. Parce que un bon correcteur est un correcteur exigeant. Ouais, c'est-à-dire que c'est si c'est pour avoir quelqu'un qui vous dit que c'est très bien, ça sert à rien. Donc en fait, il se trouve que je pense que l'amour des mots et de l'écriture m'est venu de ma grand-mère qui était institutrice. Et qui formait des institutrices également. Donc ma mère a hérité de ça et me l'a transmis, donc c'est pour ça que c'est ma première lectrice. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand elle a lu l'épisode sur Brice, elle a très clairement reconnu son petit garçon. C'est-à-dire que ce que je m'amuse à faire, c'est que avant d'écrire un épisode, en fait, j'envoie un questionnaire où bien sûr j'appelle l'athlète, hein, parce qu'on se connaît tous. Et puis que je choisis aussi le sport en fonction des athlètes que j'ai envie de faire découvrir aux enfants. Je choisis pas un athlète uniquement sur son palmarès, c'est parce que c'est pour moi une belle personne en plus d'être un grand champion que j'ai envie de le donner en exemple aux enfants, sur ce côté rôle modèle. Et donc en fait on s'appelle, j'ai toute une série de questions qui obligent le champion à se rappeler qui il a été enfant, quelle était sa personnalité, son parcours, s'il a des anecdotes. Et en fait c'est ma matière première, c'est ma matière brute en fait qui me permet ensuite d'aller créer cette fiction. Et donc systématiquement en fait il y a des moments autobiographiques de l'athlète, des moments qui ont vraiment existé, des bouts de sa vie, des bouts de difficultés que après j'en fais un mélange pour créer la fiction, mais si tu veux, ce qui est rigolo, c'est qu'on le champion retrouve son caractère dans l'écriture de sa rencontre avec Joe. Et donc c'est pour ça que chaque champion a vraiment sa personnalité, a ses qualités, a son niveau d'exigence, ses défauts. Mais c'est ça qui va donner justement de la richesse à l'histoire et qui va faire qu'à la fin, ils n'en seront que plus courageux d'avoir réussi à surmonter tout ça ensemble.
Ok, bon bah génial, bah, je devrais peut-être m'inspirer de tes questions pour moi mes interviews. Je pense qu'on pourrait se partager des petits tips parce que c'est un peu aussi ce que j'essaye de faire. Tu as parlé d'amour des mots et pourtant j'avais l'impression que tu étais plutôt quelqu'un de scientifique. Bon, petite histoire, du coup, t'as fait la même école d'ingénieur que mon petit frère. Je crois que c'est l'école polytechnique féminine, il me semble. Alors, parce qu'historiquement, il y avait deux écoles, hein, l'école polytechnique masculine et féminine. Je crois, hein, dis-moi si je dis des bêtises.
C'est ça. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'être ingénieures. Donc, on a dû créer l'école polytechnique féminine en parallèle de l'UX pour permettre aux femmes en 1920 et quelques de pouvoir obtenir ces diplômes qui étaient réputés être réservé aux hommes.
Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré vers les métiers de l'ingénierie, plus particulièrement, alors tu es dans l'aérospatial et l'aéronautique. Qu'est-ce qui t'y a attiré, tu dirais, quand tu étais plus jeune? Bon, j'ai cru comprendre que tu avais compris assez tôt aussi qu'il fallait absolument un double projet, que c'était pas possible d'avoir une carrière de haut niveau dans l'escrime et uniquement en escrime, et qu'il fallait forcément travailler à côté. Mais du coup, comment t'as construit ton parcours étant jeune, et qu'est-ce qui t'a attiré vers l'ingénierie?
Écoute, pour moi, ça a été assez simple en fait. Alors bon, mon père est ingénieur, donc je pense qu'il nous a transmis ce réflexe de chercher à comprendre comment fonctionnent les choses, cette curiosité sur ce qui nous entoure. Donc c'était finalement le mot ingénieur ne me faisait pas peur. Ouais. C'était une filière vers laquelle je pouvais me projeter assez jeune. Parce que à nouveau, hein, la force de l'exemple. Hein, donc j'avais autour de moi un père ingénieur, donc ça me semblait pas être un gros mot. Et ensuite, le deuxième coup de bol que j'ai eu, c'est que très tôt, vers l'âge de 7-8 ans, je dévorais tous les bouquins d'astrophysique qui me tombaient sous la main. Donc j'ai une véritable fascination pour le spatial. Effectivement, je suis ingénieur aéronautique et aérospatial, mais en fait, franchement, on peut enlever le premier. Mon vrai dada, c'est vraiment l'aérospatial. Et effectivement, enfin, je penser à l'espace me fascine, m'apaise même, c'est quelque chose qui c'est quasiment plus spirituel et philosophique que technologique. Je trouve que ça remet l'homme à sa place parce que quelque part aujourd'hui on est incapable de comprendre exactement comment l'univers s'est créé. Alors il y a beaucoup d'hypothèses et qui tous les 15-20 ans sont contredites, et quelque part je trouve que c'est intéressant pour l'homme de se dire en fait j'ai une limite à ma connaissance et tant mieux. Ça pousse aussi à une certaine humilité. On saura jamais, ou en tout cas aujourd'hui on est incapable de savoir pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien. Et pour moi ça me fait du bien. Voilà, je trouve que il y a une notion d'humilité derrière. On n'a pas toutes les réponses, ça remet l'homme aussi à sa place. Donc voilà, c'est quelque chose qui est fascinant quand je me souviens quand je lisais les bouquins d'astrophysique petite ou quand je le fais encore, c'est cette immensité, c'est prodigieux, c'est tout simplement prodigieux. Et une fusée, c'est prodigieux aussi. J'ai eu la chance d'aller à Kourou. Quand vous voyez Ariane 5 décoller sur le pas de tir de Kourou en Guyane française, c'est le centre spatial européen en Guyane. C'est à vous couper le souffle. Ouais. Le sol tremble, il y a une boule de feu qui décolle et voilà, c'est l'homme qui est capable de faire ça. C'est des milliers d'ingénieurs qui, en mettant leurs forces ensemble, en coopérant à l'échelle européenne, arrivent à faire en sorte qu'aujourd'hui l'homme puisse accéder à l'espace. Alors en Europe, au travers de satellites, de sondes d'exploration de l'univers, et puis à l'échelle de la coopération internationale, notamment avec les Américains ou les Russes, on arrive à faire des vols habités et à emmener l'homme dans la station internationale. Donc voilà, c'est moi je trouve ça encore aujourd'hui prodigieux et donc très tôt en fait j'ai su que je voudrais un jour travailler dans le milieu de l'aérospatial et contribuer en fait à cette grande aventure humaine. Et pour moi la façon de contribuer que j'ai trouvé c'est de participer à la construction des fusées qui permettent ensuite d'emmener des objets en orbite, ou pas en orbite d'ailleurs, quand on veut explorer le fond de l'univers.
Ouais.
Mais en tout cas, ça passe par des fusées dans lesquelles on va mettre des satellites sous la coiffe.
Ok, bon, c'est passionnant et on sent que tu es toi-même vraiment passionné et tu transmets la passion. Moi, j'avoue, moi aussi, je suis un grand fan d'aérospatial, sûrement un peu moins que toi, mais je trouve qu'il y a effectivement une quête d'identité de l'humain, de l'être humain qu'on a l'impression, enfin. Je sais pas si c'est une fausse illusion, mais j'ai l'impression qu'en découvrant l'univers, en fait, on va découvrir aussi d'où on vient, qui on est, et mieux comment ça fonctionne. Il y a même des théories qui disent que si jamais il existe d'autres formes de vie autre part, finalement, en fait, ça remet tout en cause sur l'existence des religions. Enfin, il y a plein de
exactement. C'est pour ça que je dis que c'est quasiment philosophique et spirituel et ça va au-delà de la technologie seule, très clairement.
Et
puis après, j'avais cette conscience aussi, tu me posais la question tout à l'heure de dire le double projet pour toi, ça a été tout de suite quelque chose que tu as mis en place. Oui, mais parce que j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des parents qui très tôt m'ont fait comprendre que le sport ne ferait pas tout, encore moins l'escrime qui est un sport... Alors aujourd'hui, on peut dire semi-professionnel, mais à l'époque de mes études, totalement amateur. Donc, il y avait ce besoin quelque part hein, de pouvoir subvenir à, enfin, de gagner sa vie, tout simplement. Et quitte à gagner sa vie, autant le faire en vivant une passion. Et puis, donc oui, ce côté financier, et puis le risque de la blessure, de la contre-performance qui pouvait faire que du jour au lendemain, tout pouvait s'arrêter. Et ça, je pense que ça a vraiment été lié à mon entourage. J'ai eu la chance d'être bien entourée par mes parents qui m'ont tout de suite mis ces warnings-là en disant « il faut que tu prévois l'à côté parce que le sport ne durera qu'un temps ». Alors c'est vrai parce qu'effectivement, une carrière sportive, c'est très court. Moi, j'ai la chance de la faire durer parce que mon corps est résilient et je le remercie. Même si j'ai quand même eu quelques blessures, notamment là sur la fin de cette dernière Olympiade, mais des fois c'est très court. Hein. Il y a des personnes qui peuvent arrêter leur carrière sportive dès 20 ans, dès 25 ans, parce que 2-3 ligaments croisés et puis voilà, et puis c'est le ligament de trop et puis le corps fatigue. Donc voilà, il y avait cette conscience très tôt qu'il faudrait quelque part avoir cet à côté, ce double projet qui aujourd'hui me permet effectivement d'avoir une expérience professionnelle réelle et conséquente pour envisager ma reconversion après Tokyo sereinement.
Ok. Et tu as jamais rêvé d'aller toi-même dans l'espace, tu vois, parce que en t'écoutant, j'ai l'impression que t'as plusieurs qualités. Donc déjà, quand même un parcours d'ingénieur et on voit de plus en plus de gens aller dans l'espace qui ne sont plus des pilotes de chasse. Très bonne condition physique, très bonne relation sociale, puisque c'est le premier échec une des premières choses qui est testée sur les astronautes, c'est leur capacité à s'entendre entre eux et à coopérer. Et toi, ça a l'air de plutôt bien se passer, notamment dans le milieu pro. Tu vois, bref, peut-être que je fantasme complètement, mais c'est une idée qui t'a traversé l'esprit à un moment.
Écoute, je te propose, tu vois, la petite séquence que tu viens de dire là, tu la prends et tu l'envoies à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. qui vient de lancer tout un processus de recrutement en fait de son futur corps d'astronautes, où il cherche notamment des femmes, parce qu'il y a peu de femmes qui postulent jusqu'à présent, et il cherche vraiment à avoir cette parité chez les astronautes. Aujourd'hui, il y a une seule astronaute femme, hein, si je dis pas de bêtises, pour l'ESA. Et donc, je mentirais si je te dis que je n'ai pas ou que je ne suis pas en train d'envoyer ma candidature pour justement tenter ma chance, parce que quelque part, avant de pouvoir réaliser un rêve, faut déjà pouvoir prétendre, faut déjà postuler. La première fois que j'avais entendu parler de cet appel à candidature pour devenir astronaute de l'Agence spatiale européenne, c'était en 2007. Sauf qu'à ce moment-là, c'était les Jeux de Pékin. C'était les Jeux de Pékin et j'avais mis la priorité sur le sport. Et je m'étais dit, bon, je verrai dans 4 ans, je verrai dans 8 ans, de toute façon, il y aura d'autres appels à candidature. Sauf que non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Donc ça fait, tu vois, depuis 2007 que l'ESA n'avait pas réouvert des postes pour devenir astronaute. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait une limite d'âge qui était de 35 ou 36 ans. Donc là, je l'aurais dépassé, sauf que, bah, coup de bol, ils ont rehaussé cette limite d'âge. Alors, il est préconisé d'avoir en dessous de 37 ans, je crois. Moi, j'en ai 38, mais c'est possible, en tout cas, d'avoir plus. Jusqu'à 50 ans, en fait, on peut postuler à cet appel à candidature. Donc, oui, bien sûr, j'ai toujours rêvé d'aller dans l'espace. C'est quelque chose, c'est mon grand bleu à moi. Si je dois le dire de manière simple, je comprends très bien Jacques Mayol dans ce qu'il peut ressentir quand il plonge dans les profondeurs. Si moi je l'imagine dans l'immensité de l'espace.
Bien sûr.
Et donc, bah écoute, oui, je suis justement en train de remplir ma candidature, donc avec la conscience que il y a peu d'élus à la fin, mais à nouveau, j'ai quand même cette philosophie dans la vie de ne pas regretter. Et je regretterais de ne pas avoir candidaté, donc voilà, je comme au loto quoi, je tente ma chance.
Bah tous ceux qui ont réussi ont essayé, hein, ont tenté. Donc écoute, je suis à côté d'une petite table en bois. Franchement, je touche du bois pour toi, parce que ça serait vraiment fantastique. Et puis enfin tu vois, là je vois des petites étoiles dans les yeux quand je faisais mes petites recherches et que je regardais des vidéos, on sent que c'est plus qu'une passion quoi, c'est plus qu'un métier, c'est quelque chose qui fait vibrer. Et écoute, si tu as cette chance là pour être un peu fan, je l'avoue, d'Elon Musk, et tu vois quand il annonce que qu'il veut envoyer des civils dans l'espace, bah moi je suis ça de près, parce que je rêve effectivement d'y aller, d'avoir cette chance de voir la Terre de très très haut, de pouvoir vivre toute cette expérience complètement presque surnaturelle quoi, en fait. Enfin, finalement on se raccroche aux lois de la physique, mais ça serait formidable. Donc écoute, je te le souhaite, et ça serait vraiment très beau et mérité, je pense.
Ouais, et puis j'invite tous ceux qui peuvent nous écouter à en faire de même, s'ils ont toujours rêvé un jour de pouvoir aller dans l'espace et de contribuer à cette aventure humaine, faites-le quoi, candidatez, n'hésitez pas. C'est une chance inouïe que l'ESA nous donne de pouvoir postuler, et je pense qu'il faut pas avoir de regrets dans la vie, d'autant que les profils aujourd'hui qui sont recherchés sont très divers, hein. Effectivement, il n'y a plus besoin d'être pilote de chasse, le fait de pas avoir une vue parfaite, ça aussi c'est devenu un faux problème. Et puis surtout, j'ai envie de faire passer un message: aujourd'hui ils ouvrent une candidature aussi pour les para-astronautes, donc des personnes qui seraient en situation de handicap peuvent aujourd'hui rejoindre le corpus d'astronautes de l'ESA, même en ayant des handicaps. Donc ça s'appelle des para-astronautes. Et là aussi, n'hésitez pas. En fait, personne n'est fait pour aller dans l'espace. On est tous handicapés une fois qu'on est en apesanteur. Donc je trouve que c'est une très belle initiative qui a été prise par l'Agence spatiale européenne. Et la technologie saura pallier pour faire en sorte qu'une personne en situation de handicap, une fois qu'elle est là-haut dans la station internationale, finalement, elle soit comme nous. Parce qu'à nouveau, le corps humain, il n'est pas fait pour ne pas avoir de gravité et être en microgravité. Donc, on sera tous très clairement à égalité une fois dans la station internationale. Et tu parlais d'Elon Musk. Elon Musk, il a totalement disrupté le domaine de l'aéronautique, enfin de l'aérospatiale. Aujourd'hui, on parle de la Lune, on parle d'avoir une station en orbite de la Lune, on parle de cette cette station en orbite de la Lune pourrait être une étape pour aller vers Mars. Enfin, c'est des mots qu'on ne s'autorisait plus depuis 50 ans. Et donc, je pense que dans les 20-30 prochaines années, on va avoir une accélération incroyable de l'exploration spatiale, de la présence de l'homme dans le système solaire. Ça va commencer par des pionniers, comme toujours. Mais on va bien plus loin que le simple tourisme spatial dont tu parlais. Et ce corps d'astronautes qui sera pris les 10 ou 20 heureux élus, si j'augmente pour la réserve d'astronautes, auront la chance de participer justement à cette aventure, à cette quête pour aller tester ce que donne la présence de l'homme au sein du système solaire, Lune et Mars compris, quoi. Donc c'est totalement dingue de se dire qu'on peut faire partie de ce grand projet.
Ouais, bah écoute, tu m'as donné envie de postuler. Là, voilà, c'est décidé. Je vais essayer. C'est ouvert à tous. Et puis, ouais, je me sens l'âme de réussir. Donc, écoute, je vais tenter. En tout cas, c'est vraiment passionnant. C'est un sujet infini. On pourrait en parler pendant des heures tous les deux, je pense. Mais peut-être. Est-ce que par rapport justement, tu vois, à cette exigence que tu vois dans l'écosystème de l'aérospatial, parce que c'est quand même un milieu très exigeant, tu n'as pas le droit à l'erreur, c'est des temps de développement très longs. Je vois beaucoup de mine de rien, de points communs avec un peu le sport de haut niveau, avec des grandes échéances qui peuvent être la sortie d'un projet, avec des corps de métier peut-être très spécifiques et qui doivent travailler les uns avec les autres, et puis peut-être quelqu'un qui pilote un peu tout ça. Toi, est-ce que t'as vu des passerelles ou en tout cas
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Des aptitudes que tu as développées sur un côté de ta vie qui t'ont servi dans l'autre. Par là, j'entends effectivement des aptitudes que tu as pu développer à travers le sport de haut niveau et qui ont été bénéfiques pour toi dans ton métier, et à l'inverse, des choses que tu as développées à travers ton métier et tes compétences professionnelles qui ont été bénéfiques pour ta pratique de l'escrime.
Ouais, bien sûr. Bah, écoute, oui, tu as totalement raison. Aujourd'hui, développer un projet spatial, un projet de véhicule spatial comme le lanceur Ariane 6 qui décollera normalement en 2022 de Kourou, c'est des années de développement. C'est entre 6 à 8 années de développement. Quand je dis développement, c'est on part de l'idée de faire un lanceur jusqu'au moment où on finit par passer en phase de production et ensuite le lanceur décolle de la base spatiale. Mais une quête olympique, c'est pareil. C'est un temps long. On se réveille pas la veille du début de la qualification, soit un an avant les Jeux, en se disant « Tiens, j'aimerais bien faire les Jeux Olympiques. » C'est des projets qui commencent 4 ans, 8 ans, parfois 12 ans avant. Donc effectivement, il y a cette capacité à se préparer, à travailler, à aller étape par étape pour monter les échelons. Alors, dans le domaine aérospatial, on appelle ça des maturity gates, mais en fait, chaque compétition est une sorte de maturity gate où tu vas te jauger, où tu vas t'évaluer, où tu vas regarder ce qui te reste encore à travailler, parce que ça passe par du travail, en fait. Ouais. Travailler pour progresser. Et puis, il y a cette notion de coopération qui est essentielle. On ne fait pas un lanceur spatial tout seul. C'est un lieu commun de le dire, mais néanmoins. Enfin, je veux dire, il y a aujourd'hui le lanceur Ariane, c'est une production européenne. C'est des industriels européens qui coopèrent, qui travaillent ensemble. Il y a des milliers d'ingénieurs qui font converger leur expertise, leurs compétences pour rendre ce projet possible. Mais le sport de haut niveau, c'est pareil. Un sportif n'est rien tout seul. Il n'y a pas d'expérience sportive, même si on est seul sur la piste face à son adversaire. Il n'y a pas de performance qui soit purement individuelle. Il y a toujours tout un écosystème, il y a tout un staff autour de soi. Et il faut le bâtir, ce staff. Hein. Il ne nous est pas toujours donné. Donc avec l'expérience, c'est forcément plus simple. Mais moi, j'ai tout un écosystème autour de moi qui permet cette performance. C'est une équipe qui est multidisciplinaire. Et en fait, c'est eux qui me permettent d'accéder à l'excellence, c'est eux qui me permettent d'individualiser, d'aller dans la finesse, parce qu'à un moment donné, pour progresser encore plus quand on prend de l'âge, chaque pas de progression, chaque petite marche à passer, et demande de plus en plus de temps, de plus en plus de finesse, de plus en plus d'exigence, d'attention cognitive. Quand on est jeune, au départ, on appuie sur un bouton, on progresse, hein, ça c'est la base. De toute façon, il y a tellement de trucs à travailler que l'entraîneur, il a juste à appuyer sur ça, tac, il y a un progrès. Mais avec le temps, non, c'est beaucoup plus fin, et donc il y a besoin d'avoir des experts autour de soi, des compétences qu'on n'a pas. Il faut s'entourer des compétences qu'on n'a pas, en fait. Donc voilà, ça c'est des parallèles qui sont évidents, savoir s'adapter évidemment, se remettre en question, parce qu'il y a forcément des difficultés. Quand on parle d'un chemin qui dure 8 ans, on sent bien que ça va pas être un long fleuve tranquille, c'est pas une courbe linéaire, hein. Donc il y a des hauts, des bas, des contre-performances, des blessures. Dans l'aérospatial, il y a des difficultés techniques, technologiques, des obsolescences qui peuvent arriver. Donc voilà, il y a évidemment la capacité à s'adapter, à gérer l'échec, à rebondir, tout ça c'est des parallèles que je peux faire d'ailleurs en faisant des conférences où je m'amuse justement à dresser ces parallèles qui peuvent exister entre le monde professionnel, le monde de l'entreprise et celui du sport que je connais, parce qu'en plus je trouve que un des parallèles qui va bien au-delà de l'industrie aérospatiale, c'est que même dans sa vie professionnelle, on doit à la fois gérer sa carrière à soi et en même temps s'insérer dans un collectif de travail. Quel que soit le projet dans lequel on s'insère, on est toujours avec une équipe autour de soi. Et donc, c'est comment on met l'individu au service du projet collectif et comment aussi le projet collectif nourrit l'individu. Et ça, c'est des parallèles que j'aime faire et que je fais en conférence parce que ça réunit mes deux univers, en fait, mes deux expériences que j'ai toujours vécues en parallèle. Ça me permet de moi-même, hein, ça m'apprend plein de choses, le fait de faire ces conférences, ça m'oblige à mettre des mots sur de l'expérientiel, et donc ça renforce encore plus ces acquis, donc des parallèles, il y en a plein, et après évidemment, hein, je suis une seule et même personne, donc forcément ce que j'ai appris dans un domaine, je le mets au service de l'autre, enfin je suis pas le matin l'ingénieur et l'après-midi la sportive, et heureusement, et je trouve que la richesse elle vient de là, justement, de faire converger et de mettre à profit mes différents univers. Mais bien sûr, dans le sport, la capacité de la force de comment dire à se dépasser, le goût de l'effort, la capacité de concentration, ça c'est des choses que je vais mettre au service de ma vie professionnelle. Côté vie professionnelle, c'est le côté finalement l'ingénierie, c'est la capacité à résoudre des problèmes complexes, à prendre du recul, à pouvoir explorer tout un champ de solutions. Et ça, en fait, je le mets à profit aussi, cette façon de réfléchir l'ingénieur, ce côté analytique, je le mets à profit aussi pour résoudre des problématiques qui peuvent m'arriver dans ma vie sportive. Donc voilà, je sais pas si j'essaye de répondre de manière synthétique, mais c'est un champ d'exploration qui est hyper large, cette question que tu m'as posée. Ça fait des conférences, ça. Hein,
non, mais c'est hyper intéressant. Et puis, ça me parle aussi... tu vois, je me reconnais beaucoup en toi, tu vois, je suis quelqu'un d'assez analytique, qui aime bien poser les problèmes à plat, prendre des décisions à froid et toujours essayer de décomposer au maximum les problèmes, c'est ce qu'on m'a appris et je le retrouve aussi dans le sport, en fait, tu vois, de me dire comment optimiser un peu mon entraînement, comment voir les points essentiels quand je vais aborder une compétition, alors c'est peut-être pas les Jeux Olympiques, mais tu vois, sur un triathlon qui va être important pour moi, comment me concentrer, comment optimiser, comment améliorer mon processus d'entraînement aussi, je le vois, et effectivement ce type de passerelle là je le fais, et c'est encore plus percutant, je trouve, quand de te l'entendre dire, parce que déjà avec des mots différents et notamment parce que ça confirme un petit peu ce que j'avais pressenti, c'est que le sport, peu importe le niveau, en fait, tu peux créer plein de passerelles avec ton métier et ta vie, et ces vecteurs de plein de bonnes choses, tu vois, tu parlais de goût de l'effort, de concentration, je veux dire, c'est deux choses qu'on perd, tu vois, avec les futures générations, j'ai l'impression, donc qu'on perd avec notre société qui nous apprend à avoir toujours plus de confort, plus de tout et qui est facilité, et tous les problèmes qui se résolvent facilement, donc c'est hyper intéressant. Et mais du coup ton métier, le sport, l'écriture d'un livre, ensuite on va le voir, ton engagement au sein de la CAN, moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes en une et que tu te dupliques, et là où je suis très curieux, et je suis là aussi, c'est peut-être un point commun qu'on a, c'est que je suis très multicasquette et j'ai plusieurs projets en parallèle. Et du coup, je serais curieux un peu de savoir comment est-ce que tu t'organises, comment est-ce que tu priorises, et peut-être par rapport à ton organisation. Moi, je sais que je suis un mania de la productivité et de l'organisation, donc je serais curieux un peu de te challenger, savoir un petit peu comment est-ce que tu t'organises, comment tu organises ta semaine, tes journées, des outils, des ressources, des choses que tu as lues, comment on peut gérer quatre projets aussi distincts les uns des autres en parallèle de tout ça.
Mais écoute, j'ai fait une invention incroyable, j'ai inventé la journée de 30 heures. Non, c'est pas vrai, j'ai pas réussi encore. J'ai pas réussi, je bug comme tout le monde sur la notion de temps incompressible, effectivement.
Bah, dans l'espace, c'est pas compressible. Enfin, c'est dans l'espace, le temps est différent.
Le temps est différent, alors effectivement, mais bon, c'est lié à la vitesse relative en même temps. Donc, plus tu vas vite, plus le temps, effectivement, se ralentit, mais en même temps, il n'y a pas de gravité. Donc, bon emballant entre la Terre et la station internationale, c'est quasiment kiff-kiff. Bon, tu vieillis quand même plus vite dans la station internationale,
mais c'est
bon,
vrai, ça joue à très peu.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la notion, c'est de prioriser, évidemment, de ne pas tout faire en même temps. Alors, moi, mon échelle de temps, ma véritable échelle de temps, en fait, c'est pas de l'ordre de la journée, c'est 4 ans. Donc, je fonctionne en cycle olympique, en fait, et sur ce cycle olympique, je vais mettre des priorités à différents endroits en fonction du moment où je suis. Juste après les Jeux, en fait, je peux mettre la priorité sur ma carrière professionnelle. Et donc là, je peux être sur des périodes où je travaille à 100%. Puis au fur et à mesure du cycle olympique, quand ça commence, là, je me mets en temps partiel. Donc, je vais commencer à me détacher 75%, 50%. C'est difficile de faire plus de 50% parce qu'après, en plus, j'ai commencé à prendre des responsabilités dans l'industrie aérospatiale. Notamment, je manageais un laboratoire d'innovation. Déjà, manager à temps partiel, c'est pas simple. Donc, quand on est en dessous de 50%, ça n'a plus vraiment de sens. Quand on est jeune ingénieur, ça va, mais après, c'est plus compliqué. Donc, après, à l'approche des Jeux Olympiques, quand on arrive à un an et demi des Jeux Olympiques, à ce moment-là, je suis détachée à temps complet. Et donc, je suis totalement dédiée à l'entraînement, au fait de partir en compétition et d'être dans la recherche de performances sportives. Donc, en fait, tu sens bien que tout n'est pas fait en même temps. Et donc, souvent, l'écriture, elle vient dans ces moments où je me détache peu à peu de mon travail pour basculer sur du temps d'escrime. Parce que c'est aussi quelque chose qui me fait du bien, qui me maintient dans un à côté, parce que du sport, ça peut devenir aussi un peu obsessionnel et j'ai besoin d'avoir ces bulles d'air à côté. Et puis après, il y a par contre un outil qui est formidable pour moi, c'est la capacité à dire non par moment. C'est dur de savoir dire non, mais aujourd'hui, grâce à une définition précise est clair de mes priorités, de mes objectifs, en fait, je n'ai aucune difficulté à dire non et à expliquer pourquoi je dis non de manière très assertive. Donc, quelque part, ça me permet aussi, à un moment donné, de pas créer cette espèce d'entonnoir où on est par mons et par vos et jamais au rendez-vous. Je te dis ça parce que je me suis plantée auparavant. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai pas su dire non auparavant que aujourd'hui j'ai mis cet outil en place qui est quand même assez prodigieux. Et donc voilà, je pense que. Mais évidemment, tu l'as dit, ça passe par le fait de prioriser et il faut pas faire l'économie de se poser la question de se dire attends là dans la séquence c'est quoi ma priorité et tout ce qui m'en éloigne si ça me fait du bien ok. Parce que quelque part, c'est aussi important de se recharger des batteries avec des projets personnels qui sont motivants. Parce que là où on pourrait penser qu'on perd de l'énergie, en fait, on en gagne. C'est du bonus. Ça vous recharge. Et d'ailleurs, souvent, quand on fait quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous passionne, c'est de l'énergie positive. Ça vous remplit plus que ça ne vous fait perdre du temps et de l'énergie. Donc ça, on peut garder éventuellement, mais ça veut dire de bien le planifier. Et tout le reste, tout simplement, ça dégage. C'est très simple. C'est juste que c'est non prioritaire et ce sera remis à plus tard, tout simplement.
Ouais. Écoute, moi je te partage ma petite routine. Moi j'ai un outil de to-do list où je note toutes les idées, les propositions, tout ça et ça rentre dans une espèce de matrice un peu psychologique. C'est première question, est-ce que ça va vraiment te permettre d'atteindre plus vite ou mieux tes objectifs? Ça c'est la première question. Donc si la réponse est positive, OK, je le garde et je vais ensuite le reprioriser plus tard pour voir à quel moment je le fais. Ensuite, c'est est-ce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ce projet? et ce qui peut mener à des choses qui vont être vraiment intéressantes. Et si voilà, si les deux premières questions sont répondues non, bah je dis je suis un peu comme toi, je dis ciao. Mais le fait de rationaliser un peu ce process, je trouve que c'est vraiment utile, tu vois, pour apprendre à dire non et pour faire tout ça. Et donc écoute, super intéressant.
T'es finalement plus ingénieur que moi, regarde. Moi, je te l'ai dit de manière intuitive et quelque part ce que je dis là de manière intuitive, c'est exactement ce que toi t'as rationalisé dans ton process. Moi, j'ai dit tout ce qui fait converger vers l'objectif, tu gardes, c'est ta première question. Et j'ai dit si ça te fait plaisir et que ça te donne de l'énergie positive, tu gardes, c'est ta deuxième question.
Ouais.
Sauf que moi, je le fais de manière beaucoup plus instinctive.
T'as de la chance parce que ouais, moi j'ai besoin de poser sur papier.
C'est ça qui est rigolo, c'est que tu m'as posé la question tout à l'heure de qu'est-ce que m'avait apporté le sport. Le sport m'a apporté de l'instinct. Le sport m'a apporté la capacité à faire confiance à mon intuition. Parce que l'intuition, en fait, c'est de l'intelligence. C'est une intelligence liée au fait d'avoir expérimenté par le passé une multitude de situations qui fait qu'on est capable de la reconnaître et de prendre la bonne décision. Et ça, en fait, c'est une intelligence qui est très peu valorisée dans le monde de l'entreprise, encore moins valorisée dans le monde de l'ingénierie, mais quelque part, c'est une forme d'intelligence, c'est une intelligence situationnelle. Et aujourd'hui, je m'en sers énormément, et je m'en sers dans le sport, mais je m'en sers aussi dans ma façon de gérer ma vie professionnelle.
Ouais.
Et c'est quelque chose qui ne s'explique pas, et pour autant, c'est quelque chose que les équipes peuvent ressentir. L'instinct, c'est difficile à rationaliser en réunion, mais pourtant c'est quelque chose qui peut embarquer aussi parce que on sent quand c'est la bonne décision et on fait confiance aussi à quelqu'un qui peut avoir de l'expérience et qui peut avoir ce ressenti de faire ce bon choix parce que basé sur de l'expérientiel.
Ouais. Bah tu vois, autant je suis d'accord avec toi sur les profils un peu multicasquettes et notamment parmi les athlètes que ils ont beaucoup plus d'instinct que les autres, mais sur ceux qui sont vraiment dans des parcours un petit peu classiques et protégés et qui ont pas forcément de double parcours, j'ai pas le même sentiment sur l'instinct, mais peut-être que je me trompe. Tu vois, au contraire, je trouve qu'effectivement, quand tu développes plusieurs univers et plusieurs compétences, ça te développe énormément d'instinct parce que tu fais des passerelles en fait inconscientes entre tout ça. Mais ouais, je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est intéressant. C'est intéressant.
C'est ce que je dis. Si, c'est exactement ce que je dis. Je dis que c'est parce que tu as vécu une multitude de situations dans différents contextes. Que du coup, ça te fait une base de données de situation, et c'est là-dedans que tu vas piocher en fait.
Ouais, bien sûr.
Ton instinct, il se base sur quelque chose, sur un vécu. Il va chercher en banque pour pouvoir trouver une réponse et prendre la bonne décision. C'est pas complètement abstrait hein, l'instinct hein, et l'intuition. Donc en fait, c'est effectivement plus tu auras eu différents parcours, plus tu auras connu d'expériences, plus tu auras échoué, plus tu auras eu de casquettes au sein d'une même vie, plus tu auras dans ta banque de données des situations et des expériences de vie. Et l'instinct, il va aller piocher là-dedans. Ouais. Donc c'est très vrai, ça dépend beaucoup de ton parcours. Et plus les parcours sont riches, plus tu peux t'appuyer en fait sur ton intuition.
Ouais.
Parce que le socle est solide.
Ok, bah je suis tout à fait d'accord. En plus, là, j'écoutais une interview là d'un très grand entrepreneur que j'aime beaucoup, qui a créé une société qui s'appelle Open Classroom, qui est tout simplement de l'école en ligne. Et je trouve que c'est très beau, leur mission est absolument de rendre l'école accessible à tout le monde. Et la mission est très belle. Et il disait, on s'autorise plus à échouer aujourd'hui dans notre société. On met pas assez en avant les échecs. Et lui, son conseil, c'était de tester tous les métiers, de tester plein de choses, d'être vendeur de glace, d'être laveur de carreaux s'il le faut. Et en fait, ça te fait grandir, quoi.
C'est le fameux connecting the dots
de Steve Jobs.
De Steve Jobs, exactement. Quand il va mêler infographie et puis construction d'ordinateur. Donc évidemment. Et pour en revenir sur l'instinct, un sportif, quand il est sur le field of play, quand il est sur le terrain, quand il est sur la piste, quand il est sur le stade, heureusement que c'est son intuition à un moment donné qui parle. Enfin, je veux dire, le temps du sport de haut niveau est beaucoup trop court pour avoir le temps de mettre en place un process qui fait dire que tiens, mon adversaire est à telle distance, là, mais là, la cible est ici, je vais donc faire ce geste. Trop tard, je suis touché. Donc c'est bien parce qu'auparavant, lors de l'entraînement, j'ai répété des centaines et des centaines de fois un geste technique, je me suis confronté à des centaines et des centaines de fois à des situations tactiques, que le jour J, face à mon adversaire, je vais être capable de prendre la bonne décision au bon moment et de faire le bon geste sans même avoir besoin de le conscientiser. C'est exactement ce processus-là qui arrive. Le coup génial, c'est pas quand il se produit qu'il est génial. Il est génial parce qu'il a pu se produire, parce qu'on a travaillé auparavant pour qu'il se produise. C'est ça qui est génial. Ouais. Et qu'effectivement, ça sort tout seul. ça sort tout seul en mode pilote automatique. Mais ça, on peut il est automatique parce qu'on l'a automatisé. Tu vois ce que je veux dire? Et à nouveau, c'est cette fameuse base de données de situations vécues auparavant. C'est à ça que sert l'entraînement. Ouais.
Et tu penses pas, je digresse un petit peu, mais là je viens de connecter un point justement. Tu penses pas que justement les sports de duel ou d'affrontement ou d'opposition plutôt favorisent justement l'instinct et la prise de décision? Je te fais un exemple imagé. Le sauteur en hauteur, il va répéter son geste. Il est pas face à une situation à laquelle il n'est pas habitué. Si tu veux, entre guillemets. Il n'a pas forcément besoin de prendre une décision. Il doit se concentrer très fort, il doit prendre en compte les éléments autour, mais il connaît la situation. Toi, tu te retrouves en face de quelqu'un dont tu vas pas forcément connaître le jeu, qui va avoir une stratégie, qui va avoir une tactique, il va y avoir des éléments perturbateurs en plus. Tu trouves pas que ça, c'est quand même des... On parlait de tennis tout à l'heure, c'est quand même des sports qui développent un peu cet instinct, ce choix, cette prise de réaction, cette capacité à rebondir tout de suite. Plus que d'autres sports, finalement, je viens de sortir ça comme ça. Hein, tu vois, t'as le droit de me dire, oula, t'es parti trop loin là.
Non, pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sport dont on fait jamais le tour. Du coup, tous les sports d'opposition, on n'en fait jamais le tour parce que je suis pas dans la tête de mon adversaire. L'adversaire est pas dans ma tête. Moi-même, je sais pas forcément le coup que je vais faire au moment où je le fais. Donc, à partir de ce moment-là, on sent qu'on aura beau avoir fait toutes les analyses vidéo du monde, à un moment donné, c'est quand même ce qu'on va ressentir avec ses sensations du moment, avec la situation qui se présente. La touche, elle va se décider dans l'instant, en fait. Hein, ça sert à rien de trop l'anticiper, et d'ailleurs souvent quand on anticipe on a tout faux, parce qu'il suffit que l'adversaire fasse quelque chose qui n'est pas prévu et d'un coup la tactique s'effondre. Ouais. Donc oui, bien sûr, ça va développer la capacité à prendre la décision dans l'instant, à s'adapter si besoin. Après, le point commun de tous ces sports, c'est la capacité de concentration. C'est parce que tu vas être dans l'instant présent au centième, au millième près, que soit ton geste technique sera réalisé à la performance quand on est des sports de performance métrique, on va dire, comme tu disais, le saut en hauteur ou la natation, c'est la concentration que tu mets dans ton geste qui va rendre le geste précis et donc parfait, quasiment. C'est d'ailleurs pour ça que certains athlètes utilisent l'hypnose, hein, quand se mettent un peu en état d'auto-hypnose avant de faire leur saut, avant de faire leur course. Et nous, c'est cette concentration, le fait d'avoir tous nos sens connectés dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, on dit ça, hein, qui va faire qu'à un moment donné, on va ressentir notre adversaire et on sera capable de prendre la bonne décision, de lancer l'attaque au bon moment, à la bonne distance. Donc moi, je trouve que dans tous les cas, l'exigence que ça demande cognitivement, ouais, est exactement la même.
Ok, ouais, c'est vrai que ça se traduit pas exactement de la même façon sensoriellement, mais en tout cas le travail intérieur il est très fort. Ouais. Écoute, il y a un dernier sujet que j'aimerais bien beaucoup aborder avec toi. Le temps va très vite et comme j'ai un peu l'impression d'être avec mon penchant féminin en plus fort, mieux et encore plus intelligente, ça pourrait durer pendant des heures et je sais que t'as un programme très chargé. Mais ce dernier sujet, c'est un sujet très important parce que le public ne le connaît pas assez et c'est pourtant c'est une commission qui est en train de monter, de prendre du poids et dans laquelle tu es investi. Et si ça prend du poids, c'est justement parce que des personnalités géniales comme toi, ils passent du temps et font avancer les choses. C'est celui de la CAN, donc la commission des athlètes de haut niveau. Je serais de curieux de savoir déjà de te l'entendre pitcher. On en a déjà parlé sur un autre épisode avec Ayodele Ikwesan qui était vraiment passionnant, mais j'aimerais bien entendre toi l'exprimer avec tes propres mots et dire quelle est ta mission aujourd'hui de cette commission et quels sont tes combats à travers tes combats, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas quels sont les chantiers sur lesquels tu travailles.
Ouais, bah alors effectivement, la CAN, en fait, c'est la commission des athlètes du haut niveau du Comité national olympique et sportif français. Donc, c'est une commission qui est composée d'Olympiens et qui est élue par ses pairs. Donc, c'est vraiment la seule commission d'athlètes élue par ses pairs. Quand je dis ses pairs, ça veut dire les sportifs de haut niveau français. Actifs. Et les Olympiens sur les trois dernières Olympiades, sport d'été et hiver confondus. Hiver-été, alors para, pas encore, même si on intègre des sportifs paralympiques, des athlètes paralympiques dans notre commission. en tant que membre de droit et qu'on crée des synergies directes et beaucoup de liens avec la commission, avec les athlètes paralympiques. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle en France le Comité national olympique et le Comité paralympique. Et aujourd'hui, ouais, c'est deux entités qui sont distinctes. On verra à terme si elles convergent pour ne devenir plus qu'une seule entité. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, chaque entité, en fait, est amenée à avoir sa commission d'athlètes. Aujourd'hui, je sais que le Comité paralympique est en train de voir pour constituer sa commission d'athlètes. Donc, à terme, il y aurait deux commissions, une commission d'athlètes olympiques et une commission d'athlètes paralympiques, si je raccourcis. Mais aujourd'hui, cette commission d'athlètes de haut niveau du CNOSF, en fait, intègre en son sein des athlètes paralympiques, bien évidemment. Et le but, en fait, de cette commission, hein, c'est de représenter les intérêts des athlètes français et de les accompagner au mieux, que ce soit dans leur quête de performance sportive, mais aussi dans leur parcours de vie extrasportif. Quand on dit ça, hein, on sent bien qu'on va faire appel au double projet, à la reconversion, aux aides financières, à l'accompagnement médical, psychologique, au sujet comme le dopage. Et pour que ça marche, en fait, très clairement, bah, il faut se structurer entre athlètes pour pouvoir, qu'on soit en mesure de pouvoir consulter les athlètes qu'on représente, pour pouvoir s'en faire le relais auprès des instances du sport français, auprès des pouvoirs publics. Et puis l'objectif, bah, c'est d'être finalement un réseau d'athlètes solidaires où on crée du lien, bien sûr à l'échelon de la France, mais aussi à l'international, de manière à pouvoir échanger des bonnes pratiques entre les sportifs. On a tous des parcours et des statuts particuliers. Il y a les sportifs professionnels, il y a les sportifs amateurs, il y a les sportifs d'hiver, d'été, il y a ceux qui sont en activité, en reconversion, il y a ceux qui sont à Paris, pas à Paris. Ouais. Chacun a ses spécificités, ses problématiques, et c'est parce qu'on va échanger, faire du partage d'expériences, se structurer, se mettre en réseau, qu'on va aussi créer de l'intelligence et pouvoir mieux s'aider les uns les autres. Et puis il y a aussi mission qui est importante, c'est de, je l'ai dit en préambule, mais c'est de faciliter les conditions de l'excellence sportive des athlètes français, encore plus sur ce mandat à venir, puisque ce sera quand même l'Olympiade qui va voir les Jeux d'été qui seront organisés à la maison à Paris en 2024. Donc c'est essentiel pour que ces Jeux soient une réussite que la délégation française olympique et paralympique soit au rendez-vous au niveau du compteur des médailles. Ouais. Donc voilà, ça c'est l'état d'esprit de cette commission. Et après, on est sur des choses très concrètes. Typiquement, sur le mandat précédent, on a pu aller sur des thématiques très fortes comme la lutte contre toutes les formes de discrimination et toutes les formes de violence, notamment les violences sexuelles. On a pu aller sur des thématiques comme la reconversion et le double projet. Voilà, donc on a aussi participé à un projet de loi sport et société pour, on va dire, améliorer la place et le rôle des athlètes dans les instances du sport français, avec notamment des voies délibératives et non plus uniquement consultatives, parce que bon, c'est facile de consulter les athlètes et de leur demander leur avis, mais faudrait pas que ça devienne non plus la caution morale, le tampon moral, et on a envie aussi de pouvoir peser dans les décisions, et ça passe par le fait de siéger dans les instances et surtout d'avoir cette voie délibérative qui puisse nous être donnée pour que finalement les sportifs qui sont les premiers acteurs directs du sport puissent être représentés. Donc voilà, c'est un sujet, tu le vois, ça m'enthousiasme. Moi, je trouve que c'est... Ouais. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir été élue par les autres sportifs, de pouvoir continuer ces sujets qui sont hyper intéressant, hyper formateur. Voilà, donc moi je suis très contente de faire tout ça, en plus avec une bonne bande de copains, en fait, quelque part, parce que je le disais, c'est des belles rencontres à nouveau. J'ai la chance d'aujourd'hui d'avoir des amis dans cette commission d'athlètes, parce que on s'est rencontrés là, on a mené des projets à bien, et puis on se comprend entre sportifs, on est passé par les mêmes difficultés, on ne les a pas tous résolus de la même façon, mais quelque part on a le même ADN et surtout on a les mêmes valeurs, donc c'est hyper facile de travailler ensemble.
Ok, bon génial, et effectivement encore une fois on sent que la passion est là, et je voulais aussi te poser la question un peu du pourquoi, on en a parlé plusieurs fois, toi pourquoi t'as voulu justement t'engager dans cette commission ?
Écoute, c'est quelque chose qui est assez naturel chez moi de m'engager. Je dis pas que je suis une révoltée, pas du tout, mais j'aime quand les choses sont justes. Et quelque part, c'est aussi une façon de transmettre, c'est-à-dire que si on peut faire gagner du temps à la jeune génération, faisons-le, quoi. Les anciens, ceux qui ont le plus d'expérience, on est passé par certains écueils. Et franchement, je pense qu'on aurait pu économiser certaines épreuves si on avait été mieux informé, si on avait été mieux accompagné. Et finalement, c'est la vocation aussi de cette commission, c'est d'aider la jeune génération, notamment la génération qui ira vers les Jeux de Paris 2024 ou celle qui va aussi aller vers les Jeux de Pékin 2022, parce qu'il faut pas oublier les sports d'hiver. Voilà, c'est de leur faire gagner du temps dans leur quête de performance et que tout soit mis facilité pour que finalement ils puissent réaliser leurs rêves, parce que c'est ça l'objectif. Et en même temps, c'est de dire aussi, un athlète, c'est pas qu'un athlète. Un sportif, c'est aussi un citoyen, c'est aussi un homme, c'est aussi une femme, c'est quelqu'un qui sera un citoyen français, un citoyen du monde demain, et ce sera quelqu'un qui sera un ambassadeur aussi, qui portera des valeurs fortes, qui pourra jouer le rôle de rôle modèle. Et quelque part, c'est aussi ça qu'on a envie de démontrer, c'est que ça va au-delà de juste sa performance sportive. Voilà, on est des citoyens à part entière, et c'est pour ça qu'il y a aussi cette vocation à pouvoir prendre la parole sur des sujets de société. Et c'était pas forcément le cas avant, et je pense qu'aujourd'hui, être un athlète aujourd'hui, c'est aussi être un homme, être une femme, être un citoyen et prendre sa part dans la société, quoi.
Ok, bon bah génial, c'est des sujets en tout cas passionnants et peut-être pour bien comprendre, je sais pas comment vous êtes organisé, mais est-ce que vous avez des sujets chacun sur lesquels vous travaillez de manière plus précise? Toi, quels sont les sujets qui te sur lesquels tu avances, tu travailles? Parce que j'ai cru comprendre que c'était réparti un petit peu par thématique, et savoir un petit peu quelles étaient tes missions au sein de ces thématiques.
Exactement. En fait, on fonctionne par groupe de travail. En fait, donc on est la commission des athlètes, c'est entre 40 et 50 athlètes, et forcément, on n'a pas tous les mêmes expériences, on n'a pas tous les mêmes compétences. Et puis, il y a des thématiques qui nous tiennent plus ou moins à cœur. Donc, en fait, on demande au début sur quel sujet chacun souhaiterait s'impliquer. Et typiquement, il y a différents groupes de travail. Il y a des groupes de travail sur la mise en place d'événements bleus, si tu veux, de partage d'expériences entre athlètes. Il y a des groupes de travail sur donc la lutte contre les discriminations et toutes les formes de violence, j'en ai parlé. Il y a un groupe de travail sur les conditions de la performance, comment faire en sorte que les conditions de l'athlète soient facilitantes pour qu'il accède à la performance. Il y a un groupe de travail sur sport et femmes, sur la place de la femme dans le sport, sur la prise en compte de la spécificité de la femme dans sa quête de performance. Là, je pense au cycle menstruel, je pense à l'endométriose, je pense à la prise en compte de la maternité. Il y a un groupe de travail également sur le droit des athlètes, sur des projets de loi qui pourraient toucher au statut du sportif de haut niveau, sur l'accompagnement juridique des athlètes aussi, pour pouvoir mieux les équiper dans tous ces à côté juridiques, ça va d'un contrat de sponsoring aux règles juridiques au jeu, à la fiscalité, hein, voilà, comment faire en sorte que tout ça soit, ils aient mieux accès à l'information et qu'il n'y ait pas de boulettes. Et puis il y a aussi un groupe de travail sur tout ce qui est RSE dans le sport, l'impact environnemental des grands événements sportifs, le sport dans les quartiers prioritaires, le sport santé, l'éducation par le sport. Donc voilà, c'est différents sujets qu'on va tacler. Et puis bien sûr, il y a un groupe de travail dédié vraiment à tout ce qui est reconversion et double projet, avec notamment un projet qui nous tient à cœur de créer une plateforme unique qui centraliserait en fait tous les dispositifs existants sur le sujet pour un sportif de haut niveau français, ce qui lui permettrait d'avoir l'information centralisée sur une seule et même plateforme partagée par les différents acteurs du sport français. Et au moins, ça simplifierait la lecture de la situation pour les sportifs. Donc voilà, il y a tous ces projets-là qui sont dans les cartons. Tu vois, le champ est assez vaste. Et en fait, le fonctionnement par le groupe de travail, ça permet d'avoir une certaine efficacité. Chacun va sur ses thématiques de cœur. Et puis, on crée de la transversalité aussi entre ces différents sujets. Et on remonte tout ça au bureau exécutif du CNOSF pour qu'il y ait les arbitrages politiques qui vont bien.
D'accord, ok, je vois bien. Ouais. Et juste par petite curiosité, j'ai un petit biais personnel là quand tu parles de plateforme web, c'est pour résoudre quel problème concrètement? C'est de la lecture de l'information, c'est de la centralisation d'information, c'est des actions où il y a une certaine intelligence qui peut être mise.
Il y a une certaine intelligence qui peut être mise, évidemment, dans la mise en réseau des athlètes, parce que cette plateforme, en fait, aujourd'hui, en fait, sur le double projet, la reconversion, il y a une multitude d'acteurs, il y a une multitude de dispositifs, sauf que pour un sportif, ça peut être assez confusant. Donc l'objectif, c'est vraiment de recenser tout ce qui existe sur cette plateforme, de permettre aussi aux sportifs de pouvoir se mettre en relation pour pouvoir, et ben, je sais pas, moi j'ai travaillé à Ariane Group, j'ai travaillé dans l'industrie aérospatiale, j'ai fait des stages au CNES, qui est le Centre National d'Études Spatiales Français. Potentiellement, ça peut intéresser un autre sportif. J'ai fait mes études à l'École Polytechnique Féminine, des études d'ingénieur, ça peut intéresser aussi un autre sportif. Donc c'est aussi permettre aux sportifs de se questionner sur leur parcours pour pouvoir gagner du temps, prendre les bonnes décisions, faire les bons choix d'orientation. C'est cette intelligence qu'il faut mettre en musique au sein de cette plateforme, et pourquoi pas l'étendre à d'autres fonctionnalités. Typiquement, je parlais des blessures. Une blessure, tout sportif, quand il se lance dans une carrière de sport de haut niveau, sait qu'à un moment donné, il aura une blessure à gérer. Sauf que, bah, quelque part, si on peut s'appuyer sur l'expérience de quelqu'un qui, 10 ans, 20 ans plus tôt, ou il y a 5 ans, est passé par la même blessure, par les mêmes difficultés, on gagne du temps. On gagne du temps sur le choix de son chirurgien, sur l'opération à faire, sur la rééducation post-opératoire qu'il faudra potentiellement faire, sur le temps que ça met pour revenir sur les terrains de sport, parce que c'est, il y a le théorique et puis il y a la réalité. Et donc sans se substituer au corps médical, mais c'est se dire comment faire en sorte que l'information circule mieux entre les athlètes. Bah, ce sera possible parce qu'à un moment donné, il y a une plateforme où on met de l'information et où on peut se mettre en réseau les uns les autres.
Ok, bon, en attendant, il y a Extraterrien, si vous voulez, où il y a des super témoignages et plein d'informations. Et d'ailleurs, le podcast est partenaire du GDOS. Alors, c'est pas du tout la même mission, hein, c'est le comité départemental olympique aussi, mais voilà, et donc en tout cas il y a des bonnes infos, et je sais que quelques athlètes nous écoutent, donc j'espère qu'ils y trouveront plein de ressources. Écoute, merci infiniment Astrid, je vois que le temps tourne et on a parlé de beaucoup de sujets. Encore une fois, j'aurais pu rester des heures et des heures, et Dieu sait que j'avais préparé d'autres sujets pour toi. J'aime bien clôturer les interviews par une question qui est un petit peu un passage de micro, c'est pas un passage de flambeau, mais voilà. Et c'est de savoir quel est la prochaine athlète que tu me recommandes d'aller interviewer, justement pour aller aborder un peu les sujets de la performance, du développement personnel, de l'engagement aussi, et je suis sûr que tes recommandations seraient excellentes. Voilà, donc quelle est la personne que
c'est
tu
dur,
recommandes?
C'est dur, écoute, j'en ai plusieurs, peut-être par rapport à des thématiques qu'on a abordées, notamment sur la place de la femme dans le sport. J'ai envie de te donner des hommes, des hommes, parce que je pense qu'il y a un grand sujet sur la place des femmes dans le sport historiquement, hein, et le monde de l'olympisme encore plus, c'est un monde d'hommes fait par les hommes, pour les hommes, et on le voit aussi dans la médiatisation du sport à la télévision. Et pourtant, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'athlètes hommes qui prennent la parole pour dire que il faut que la place des femmes dans le sport soit améliorée, la visibilité du sport fait par des femmes aussi, et c'est finalement les nouvelles masculinités quand on dit ça, avec une parité dans la représentation des genres dans la société. Et donc je pense à Valentin Bello au pentathlon moderne, et je pense aussi à Benjamin Lang à l'aviron, qui sont des athlètes qui sont typiquement engagés typiquement dans les groupes de travail sport et femmes de la commission des athlètes, et ça peut être intéressant justement d'aller, on a besoin des hommes aussi dans ces combats sur la place de la femme, donc ça peut être intéressant. Et sinon, si tu veux bien te marrer, je suis obligée de te citer Marie Martineau au ski freestyle, qui est super, qui est juste top, franchement un parcours de dingue, une personnalité décoiffante, pas de langue de bois, en plus elle fait elle-même un podcast, donc vous aurez certainement plein de choses à vous dire, voilà, elle est top.
Bon, génial. Écoute, j'ai noté soigneusement toutes ces recommandations. En tout cas, si je m'amuse et si je passe un aussi bon moment avec eux qu'avec toi, ça sera des épisodes vraiment fantastiques. Merci infiniment, Astrid. Je me suis régalé. On est parti un peu dans tous les sens, mais on a abordé plein de sujets et on l'a fait, je trouve, plutôt de manière plutôt bien, super construit, et ça m'a fait super plaisir de pouvoir aborder tout ça. Donc, écoute, encore une fois, je touche du bois à la fois pour toi, pour Tokyo, pour l'ESA, pour tous les projets que tu prépares, et aussi, je vais aller acheter les aventures de Joe tout de suite maintenant, comme ça sera fait. Écoute, je te remercie infiniment. J'ai passé un super bon moment, et voilà, je te dis à très bientôt, Astrid.
Merci Barthélémy, merci de ton invitation.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !